Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir, la une, l'épreuve pour les rescapés, pour les familles des victimes du 13 novembre. Le procès continue, les accusés ont eu la parole et Salah Abdeslam a de nouveau imposé sa propagande. On a attaqué la France, mais il n'y avait rien de personnel, a-t-il expliqué. Nous allons vous raconter cette journée d'audience difficile et vous entendrez évidemment la colère, la douleur des parties civiles. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Face à l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité, le gouvernement s'apprête à revaloriser le chèque énergie. Information du service politique d'RTL. Dans ce journal aussi, assurance maladie, agence régionale de santé, on vous dira comment elle s'organise pour surveiller la vaccination des médecins libéraux. Et puis le foot, le PSG face à Bruges ce soir à partir de 21h. Les courses dans le Quintet Plus à Compiègne. Il fallait jouer le 5, le 13, le 12, le 7 et le 8.
Dans un quart d'heure, cette question. Le Père Noël pourra-t-il livrer la dernière console de jeu, le dernier smartphone sous le sapin? Pénurie planétaire de semi-conducteurs. Le patron de ST Microelectronics, l'un des leaders mondiaux du secteur, sera notre invité. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les premiers touristes envoyés ce soir dans l'espace. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière, consacrée à la disparition de Marthe Mercadier, la reine du théâtre de boulevard, nous a quittés. Elle avait 92 ans. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec vous, Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on va décortiquer une promesse de campagne à la mode, la nationalisation des autoroutes. Et vous découvrirez qu'il ne suffit pas de lever la barrière de péage pour tout régler. Et puis, on vous emmènera au bar tabac pour vous faire vacciner.
À 19h15, on va refaire le monde. Confrontation d'idées autour d'Éric Brunet. Ce soir, on reviendra notamment sur le tourisme spatial et puis tout au long de l'émission vos points météo. Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Demain encore orageux du sud-ouest au nord-est.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc, avant toute chose, cette info RTL, ce coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz.
Vous nous le révélez ce soir, hein, Benjamin Sportouche, le gouvernement s'apprête à revaloriser le chèque énergie.
Oui, c'était dans les tuyaux, si je puis dire. Le gouvernement a donc décidé d'augmenter le chèque énergie qui touche aujourd'hui près de 5,5 millions de Français. C'est Jean Castex, Premier ministre, qui l'annoncera officiellement demain lors d'un déplacement dans l'Aveyron. Aujourd'hui, ce chèque énergie qui a été instauré en 2018 peut aller jusqu'à environ 200 euros en fonction des revenus du ménage. Cette augmentation dont le montant est ce soir toujours en arbitrage selon nos informations doit compenser l'augmentation, vous l'avez dit, importante des prix de l'électricité, du gaz et du carburant, les prix à la pompe qui flirtent avec les 2 euros le litre. Le gouvernement envisage également d'élargir un petit peu le nombre de bénéficiaires de ce chèque énergie, une mesure pour augmenter le pouvoir d'achat, un thème qui est déjà dans la pré-campagne présidentielle sur fond de reprise importante de l'économie.
Voilà, un peu plus de 5,5 millions de ménages actuellement concerné par ce chèque énergie et cette revalorisation qui sera donc annoncée demain. Information RTL. Merci Benjamin Sportouche. La parole aux accusés au procès des attentats du 13 novembre et des parties civiles sorties sonnées de l'audience.
Audience à laquelle vous avez assisté pour RTL. Cindy Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
C'est particulièrement la prise de parole de Salah Abdeslam qui a estomaqué les victimes.
Oui, Salah Abdeslam semble savourer le moment. C'est tout juste s'il ne sourit pas. Bonjour à tous, je vais sans doute être un peu long. Alors par quoi commencer? Les visages se tendent déjà sur les bancs des parties civiles. Salah Abdeslam se lance alors dans une revendication assumée des attentats. Il tente même de les justifier. Oui, on a visé la France parce que les avions français qui bombardent l'État islamique ne font pas la différence entre les hommes, les femmes et les enfants. Nous voulions que la France subisse la même douleur. Ses yeux noirs cernent la cour, projetés 8 fois sur tous les écrans de la salle. Sa voix est calme. Il ralentit pour mieux dicter son propos. Mon but n'est pas de choquer, hostile, mais d'être sincère envers toutes les victimes.
Et quelles ont été, Cindy, les réactions dans la salle d'audience?
Eh bien, il y a eu un silence absolu après ces quelques mots. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing, murmure David, rescapé du Bataclan. Mais à la sortie de l'audience, c'est la colère qui prend le dessus.
En fait, j'ai l'impression qu'il arrive à dissocier l'acte qu'il a commis il y a 6 ans, c'est-à-dire porter une ceinture d'explosifs et de tuer des gens, en fait. Et c'est d'une indignité absolue, en fait. Et ça met en colère parce que, encore une fois, moi je suis là, quoi. Je me révolte, je suis vivant, quoi, en fait. Il y a des gens qui sont plus là aujourd'hui. Et... Enfin, la violence, quoi. La violence d'entendre ça, de... J'ai pas les mots, quoi.
Désormais, certaines victimes n'attendent qu'une chose, pouvoir lui répondre, pouvoir regarder Salah Abdeslam dans les yeux. Elles auront la parole à la fin du mois.
Un récit signé Cindy Hubert au Palais de Justice de Paris pour RTL. Parmi les 13 autres accusés, un certain se sont tus, d'autres se sont brièvement exprimés entre dénégation, compassion et aveu partiel.
Vacciné ou suspendu, l'obligation vaccinale est entrée en vigueur aujourd'hui pour les professionnels de santé. Place donc maintenant au temps des contrôles.
Notamment pour les médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, 10 000 d'entre eux ne sont pas vaccinés. Eux sont indépendants. Toute la question, donc, c'est de savoir comment s'assurer qu'ils sont bien vaccinés.
Alors, on en a déjà une idée. Illustration dans le Grand Est avec vous, Yannick Collant. Comment il va s'organiser ce contrôle des médecins libéraux?
Eh bien, l'Agence régionale de santé va envoyer des agents contrôler les 5% de médecins qui n'ont pas envoyé la preuve de leur vaccination. Ils vont tenter de les convaincre une dernière fois. Et après, ce sera la sanction. Virginie Quéré de l'Agence régionale de santé du Grand Est.
Pour les libéraux, c'est en lien avec l'assurance maladie, une suspension des remboursements, donc à la fois de leur rémunération à eux et du remboursement pour leurs patients.
Alors le déremboursement, c'est vraiment l'arme de dissuasion massive contre les médecins.
Et les autorités, Yannick, ont déjà paré à toute éventualité, hein.
Et oui, puisque le risque, c'était que les médecins se fassent de faux certificats médicaux pour faire croire qu'ils souffraient de maladies rares qui empêchent de se faire vacciner. La Sécu a donc vérifié dans ses fichiers combien de personnes sont vraiment concernées. Et il n'y en a pas tant que ça. Les fraudeurs seront donc vite repérés. Samir Boumaraf de la CPAM du Bas-Rhin.
C'est une liste fermée de situations. Globalement, en France, c'est à peu près 5000 personnes. On verra très bien lorsqu'on aura des atypies dans des départements ou dans des villes, ce qui nous permettra d'intervenir.
Et ces médecins qui auront trop prescrit ce genre de certificat seront donc les premiers contrôlés.
Voilà, les contrôles organisés donc dans le Grand Est, explication de Yannick Holland pour RTL.
Et on reviendra sur ces contrôles avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui sera demain matin l'invité de RTL, notez l'heure, 8h20.
Et puis à La Réunion, le confinement instauré fin juillet sera complètement levé samedi et le couvre-feu repoussé à 23h.
Allez, on en vient à la bataille politique, à la contre-attaque tous azimuts de Xavier Bertrand.
Dans son fief de Saint-Quentin, dans l'Aisne, où vous l'avez suivi pour RTL, Marie Mollet. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité, le candidat a à son tour déroulé son programme. Amende retenue sur salaire en cas de non-paiement et création de 20 000 places de prison. Mais il a aussi, Xavier Bertrand, donné quelques baffes.
Oui, à en croire son discours dans la course à l'Élysée, Xavier Bertrand n'a qu'un seul adversaire.
Depuis 5 ans, Emmanuel Macron se trompe de stratégie. Il n'a pas mesuré combien nos concitoyens étaient livrés à la violence. Emmanuel Macron l'a oublié. Les mises en scène électorales à Marseille, à Roubaix ou ailleurs n'ont fait que renforcer la défiance des Français.
Il réserve au chef de l'État toutes ses attentions et tous ses coups. Pilonne la création d'un contrôle indépendant de la police annoncé hier. Objectif, se poser en premier opposant d'Emmanuel Macron, seul capable de le déloger.
Je serai ce chef de l'État qui ne se dérobera pas. Je serai ce chef des forces de sécurité qui armera notre pays contre l'islamisme. Je serai ce chef de l'État que vous jugerez sur les résultats.
Bref, Xavier Bertrand fait semblant de ne pas savoir qu'il n'est pas encore le candidat désigné par la droite. Ignore la vaste question de la primaire, toujours pas tranchée. Se hisser au-dessus de la mêlée pour espérer enfin plier le match dans les sondages.
Marie Mollet à Saint-Quentin dans l'Aisne pour RTL.
Xavier Bertrand ne s'est pas arrêté là puisque le candidat à la présidentielle a aussi frappé à sa droite sur Éric Zemmour, le grand diviseur, dit-il.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Alors on va souligner cette première depuis 10 ans à une hausse automatique du SMIC liée à une inflation supérieure à 2% plus 35 euros environ au 1er octobre. Et puis on rappelle cette information RTL, revalorisation du chèque énergie pour un peu plus de 5 millions de ménages, revalorisation qui devrait être annoncée demain.
Par le Premier ministre Jean Castex. Une pause et dans un instant dans ce journal sur RTL, le Gard dans la crainte de nouvelles inondations. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. La suite de votre journal à 18h10. Les habitants du Gard, les yeux rivés vers le ciel ce soir après les inondations d'hier.
Le département est toujours en vigilance orange. Étienne Baudu, vous êtes à Uchaud, au sud de Nîmes, pour RTL. De nouvelles pluies sont attendues sur place jusqu'en milieu de nuit prochaine.
Oui, cet après-midi, le ciel est resté désespérément couvert et a laissé s'échapper deux averses, dont une assez drue. De quoi inquiéter Aurélie, dont l'appartement en rez-de-chaussée a été inondé.
Là, je vois que ça commence à tomber, là, ça me fait peur. Donc, on va essayer de débarrasser.
Débarrasser avant qu'il ne pleuve à nouveau. Et chez Aurélie, le choix est malheureusement assez vite fait.
J'ai vu l'appartement avec 40 cm d'eau et tout est foutu, quoi. Tout, le lit, les canapés, machine à laver, frigo, tout est foutu. Non, on peut pas rester, c'est pas possible, c'est pas vivable. Tout est humide, les parquets gondolent. Avec les filles, oui, c'est filles de 8 ans et 13 ans, c'est pas possible de rester là.
Alors, de son côté, José, lui, a vu un torrent boueux dévaster sa rue et s'engouffrer chez lui. Il a même dû s'enfuir par le toit pour se réfugier chez un voisin.
On a pu récupérer ce qu'on a pu récupérer. On a déjà jeté pas mal de choses. La voiture est morte. Je vous dis à trois là-bas que c'est le parking. C'est cuit.
José, qui lui aussi scrute le ciel avec inquiétude.
Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il n'y a pas à pleuvoir. Ça, c'est pas dit. Bah, une quinte qu'on se réinonde, oui. La terre est assurée, en fait.
Et évidemment, ici, tout le monde croise les doigts. La vigilance orange est toujours en cours et le ciel est toujours aussi gris.
Étienne Baudu dans le Gard pour RTL. Le Gard, auprès de 800 pompiers, reste mobilisé. La personne portée disparue hier a été retrouvée. Saine et sauve. Direction Bruges à présent, où Paris va aligner son trio de choc pour se lancer en Ligue des Champions.
Et Philippe Sanfourge, vous nous ferez vivre ce soir ce match sur RTL. Les M&M's, Messi, Neymar, Mbappé sur le terrain. Et pour l'Argentin, une obligation de résultat.
Oui, ce soir, Lionel Messi va disputer son 150e match de Ligue des Champions. C'est tout simplement 25 de plus que le PSG dans toute son histoire. La Pulga qui, évidemment, ne fait pas que participer. 120 buts, 36 passes décisives dans l'arène des compétitions européennes. Messi est impliqué sur au moins un but à chaque fois qu'il dispute une rencontre. Une machine à gagner, donc, qui a déjà soulevé le trophée à 4 reprises. Une cinquième objectif logique avec le PSG, même s'il refuse l'étiquette de super favori.
Ce n'est jamais facile. Parfois, on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner. Je ne sais pas quelle est la recette, mais je sais qu'il faut être très uni, en plus d'être très fort, et je sais que c'est le cas dans cette équipe.
Le dernier sacre de Messi remonte à 2015. Cette saison-là, avec Barcelone, il avait terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions, à égalité avec un certain Neymar.
Philippe Sanfourche à Bruges pour RTL. On vous retrouvera donc dès 20h45 pour suivre le match du PSG. Et puis on a appris cet après-midi la mort de Marthe Mercadier, vedette du théâtre de boulevard. Elle avait 92 ans, Marthe Mercadier, qui n'avait pas caché ces dernières années sa maladie d'Alzheimer et ses combats, ses difficultés financières également. Elle avait même été menacée d'expulsion et elle était venue s'en expliquer dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL en 2014.
Toute ma vie, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas.
Est-ce que ça veut dire que vous avez aidé des amis ?
Beaucoup. J'ai aidé tout le monde, bien sûr. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire.
Est-ce que vous diriez que parfois vous avez été cigale ?
Complètement. Totalement. Avec une joie. Mais j'ai beaucoup aidé. J'ai aidé beaucoup de gens.
Le rire de Marthe Mercadier, on reviendra, c'était en 2014 hein, sur RTL, on reviendra sur sa carrière, une cinquantaine de pièces à son actif, des pièces avec Galabru, avec De Funès, on reviendra sur cette carrière dans Laissez-vous tenter dernière dans un quart d'heure sur RTL. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy, encore des départements qui sont en vigilance orange ce soir.
Exactement 8, pour être exact, 8 départements, Julien. Alors pour orage et pluie, inondation, toujours entre l'Hérault et les Savoies, et le Gard est toujours en plus en vigilance crue. Alors demain, ça restera pluvieux et orageux entre les Pyrénées et le Nord-Est, avec des pluies plus marquées sur les Alpes le matin, un retour d'un temps plus sec sur le Languedoc avec de rares averses. Et entre la façade atlantique et les régions au nord de la Loire, là le temps sera sec, mais nuageux en matinée, on retrouvera des éclaircies dans l'après-midi et ça restera instable ailleurs. Les températures resteront stationnaires au nord et en baisse au sud. 20 degrés à Abbeville, 22 à Paris, 23 à Mulhouse et Limoges, 24 à Toulouse et 27 à Perpignan.
Merci Peggy. Dans un instant, RTL Soir continue. Vous nous écoutez sans doute en ce moment avec votre téléphone, en voiture ou sur la chaîne IFI du salon. Tous ces objets sont remplis de semi-conducteurs. Seulement voilà, en ce moment, pénurie mondiale. Du coup, question concrète, est-ce que la console de jeu à la mode sera livrée sous le sapin pour Noël ? Nous allons recevoir le patron de ST Microelectronics. C'est l'un des leaders mondiaux de ces fameux semi-conducteurs. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et RTL Soir continue. Et ce soir, on a décidé de s'interroger. Est-ce que le Père Noël pourra déposer à temps le nouveau smartphone, la dernière console de jeux vidéo sous le sapin? Est-ce que votre nouvelle voiture sera livrée à temps? Vous le savez, la planète souffre d'une pénurie de semi-conducteurs. Alors ce soir, pour mieux comprendre ce qui se déroule, ce qui nous attend, notre invité Jean-Marc Chéry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du directoire, le directeur général de ST Microélectronique. C'est le champion européen, l'un des leaders mondiaux du secteur. Avant d'échanger ensemble, on va poser le constat, on va essayer d'être très concret avec trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Christophe Bourou.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Déjà faisons simple, un semi-conducteur ça ressemble à quoi?
Alors, les semi-conducteurs ont été découverts au 19e siècle, ça date pas d'aujourd'hui. C'est une sorte de cerveau qui fait circuler l'information dans les puces électroniques, à la fois conducteur et isolant électrique, et invisible à l'œil nu. C'est plus petit qu'un grain de sable et pourtant de plus en plus présent et même essentiel dans l'industrie moderne, puisqu'on le retrouve aujourd'hui dans quasiment tous nos objets quotidiens.
Ce semi-conducteur, dites-nous exactement à quoi sert-il?
On le trouve dans votre téléphone portable, ouais, dans votre console de jeu, en passant par la machine à laver, votre frigo, votre climatiseur et votre voiture. On peut dire que c'est devenu le composant indispensable pour les véhicules aujourd'hui. Utile pour tout faire fonctionner, aussi bien les airbags que les radars de recul, les GPS ou encore les essuie-glaces. Et même si aujourd'hui l'industrie automobile ne représente que 10% de la consommation des semi-conducteurs, la demande explose, poussée par le boom des hybrides et des électriques. Il faut savoir que ces véhicules renferment 2 à 3 fois plus de puces électroniques qu'une voiture classique, et une voiture autonome en consomme 5 fois plus.
Alors, expliquez-nous justement pourquoi la planète s'arrache ces semi-conducteurs en ce moment, pourquoi on en manque?
Alors, il y a un peu plus d'un an, en raison de la pandémie, les chaînes de montage se sont arrêtées et les constructeurs automobiles n'ont plus commandé de pièces. Conséquence, eh bien, les fabricants de puces électroniques se sont tournés massivement vers les marques d'ordinateurs, de smartphones qui, elles, ont vu leurs commandes s'envoler en raison du confinement et du télétravail. Seulement, l'automne dernier, lorsque la demande automobile a redémarré, il était déjà trop tard. Les constructeurs doivent donc patienter pour se faire livrer, avec de lourdes conséquences. Vous avez 2 à 3 mois eh bien, de retard de livraison pour les voitures. Et au total, cette pénurie devrait empêcher la production de plus de 9 millions de voitures dans le monde cette année.
Merci Christophe. Jean-Marc Chéry, je reviens vers vous. Vous êtes le patron donc, de ST Microélectronique. C'est l'un des leaders mondiaux, on l'a dit, du secteur. 46 000 employés, 11 sites de production sur tous les continents, plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an passé. Vous confirmez, c'est compliqué en ce moment de satisfaire la demande?
Oui, c'est extrêmement compliqué pour deux raisons. La raison numéro une, c'est qu'on s'était préparé au niveau de la compagnie et au niveau de l'industrie globale à croître d'une dizaine de pourcents en 2021 par rapport à 2020. Et ce, en fonction des données marchés qui étaient les nôtres. Bon, on va croître de plus de 20%, donc de l'ordre de 20 à 25%, donc parce qu'il y a une certaine flexibilité, mais la demande est 30% plus forte. Et une industrie qui est extrêmement capitalistique ne peut pas avoir 30% de réserve de capacité du jour au lendemain.
Vous avez investi plus d'1,3 milliard l'an passé pour augmenter justement vos capacités de production. Est-ce qu'il faut aussi les relocaliser à l'avenir? L'Union européenne veut que les 27 doublent leur part de production. Ce matin, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a même annoncé une loi. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne idée?
Bah, écoutez, oui, de vouloir augmenter la fabrication de semi-conducteurs en Europe, c'est une bonne idée. Donc, de créer cette alliance européenne, bien sûr. ST y participera. D'ailleurs, pour l'instant, ST a 5 usines en Europe, hein, vont en avoir 6. Et pour ce qui nous concerne, je vous confirme qu'on doublera bien notre activité de production en Europe dans les 5 ans qui viendront.
Parce qu'aujourd'hui, le secteur est trop dépendant de l'Asie. C'est vrai qu'on a vu un seul embouteillage dans le canal de Suez et l'équilibre de la planète est aussitôt fragilisé.
Écoutez, on pourrait en débattre pendant des heures. L'industrie s'est globalisée pour être plus efficace, pour pouvoir innover. D'un côté, si vous voulez, on peut pas avoir des smartphones aussi puissants que les portables ou les ordinateurs d'il y a une dizaine d'années et toujours les payer le même prix. Quelque part, il doit y avoir d'efficacité. Donc oui, l'industrie s'est globalisée pour être plus efficace, mais au détriment de sa flexibilité. Et aujourd'hui, on est en train de payer un manque de flexibilité.
Est-ce que cette tension, elle va perdurer selon vous? Parce que c'est très concret, on parlait de l'automobile. Il y a du chômage technique, par exemple, dans les usines françaises aujourd'hui, PSA, Toyota. Est-ce que la production risque d'être ralentie longtemps?
Ce qu'on peut penser, c'est que de façon, on va dire, structurelle, Les difficultés d'approvisionnement vont durer au moins jusqu'en 2022. Mmh. Bon, ce qui récemment a exacerbé la situation, c'est malheureusement le variant Delta en Malaisie, qui a, quasiment fait perdre la moitié de la production du troisième trimestre. Bon, à cause de la mise en quarantaine des employés de toute l'industrie pour les protéger contre ce variant Delta.
On a parlé de la voiture. Parmi vos clients, il y a aussi Apple, Samsung, Philips, Nintendo, j'en passe. Est-ce que ça signifie que les derniers smartphones, les derniers PC à la mode ne seront pas forcément livrés à temps pour Noël cette année ?
Ben, il y aura des livraisons en fonction des plans qui avaient été prévus. Ce qui ne peut pas être fait, c'est livrer avec 10 ou 15 ou 20% d'excès par rapport à la demande qui était prévue. Donc non, des livraisons sont faites, mais malheureusement, certains consommateurs qui veulent avoir des nouveaux smartphones au dernier moment auront des délais de fourniture qui seront de plusieurs mois alors qu'ils sont de quelques semaines d'habitude. Non, il y aura pas de pénurie proprement dit de produits. Par contre, les délais s'allongent fortement.
Cette situation de tension, dites-nous, est-ce qu'elle vous est profitable à vous, entreprise ? Parce que c'est vrai qu'on a vu votre titre bondir à la Bourse de Paris ces dernières semaines. On sait que les clients sont inquiets, donc ils commandent énormément. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quelque part, d'une bulle qui se dégonflerait une fois cette pénurie passée dans les mois à venir ?
Écoutez, pour l'aspect profitable, quand vous utilisez vos capacités de production et vos investissements donc au maximum, bien sûr que la compagnie est efficace. Donc oui, il y a une source d'efficacité. Ce qui nous soucie plus, c'est d'éviter des dommages structuraux à nos clients. Donc on travaille de façon très très proche avec nos clients pour éviter les dommages structuraux sur eux-mêmes. Bon, compte tenu de tout ça, la peur d'avoir une bulle se constituer, franchement, c'est pas le sujet aujourd'hui. D'autre part, toute la supply chain qui a en amont de l'industrie des semi-conducteurs, construire une usine par exemple, il faut du béton, il faut des métaux, il faut de la main-d'œuvre. Tout ça, c'est en manque aujourd'hui.
Oui, là aussi, il y a des pénuries à la fois de main-d'œuvre et de matières premières. Et ça joue effectivement dans la chaîne de production.
Ah, exactement. Donc moi, je ne vois pas de risque à court, moyen terme de constitution d'excès de capacité et de tomber dans l'excès inverse de la pénurie actuelle. Je pense qu'il faut laisser les acteurs travailler ensemble pour trouver les meilleures voies pour éviter les dommages structuraux. Les investissements vont arriver progressivement entre fin 2022 et 2023, donc ils permettront de revenir à une situation plus normale.
Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, patron de ST Microelectronics, l'un des leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs, d'avoir été notre invité ce soir dans RTL Soir pour nous aider à mieux comprendre cette pénurie. Merci beaucoup. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre avec, dans les dessous de l'actu, un voyage très 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 gourmand en semi-conducteurs parce que des touristes seront envoyés ce soir dans l'espace. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Et RTL Soir vous accompagne, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Si vous vous branchez à l'instant sur RTL, c'est le moment de refaire le point sur les titres à la une. Marion Calais.
C'est une information qu'RTL vous révélait tout à l'heure à 18h. Le gouvernement va annoncer demain une revalorisation du chèque énergie face à l'augmentation notamment des prix du gaz et de l'électricité. On a visé la France et rien d'autre, ça n'avait rien de personnel. La froide justification de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Chacun des 14 accusés a pu prendre la parole aujourd'hui. Après le match nul de Lille hier, le PSG entame à son tour son parcours européen. Ce soir, les Parisiens opposés à Bruges à partir de 21h. Match à suivre en direct sur RTL.
Merci Marion, on vous laisse aller préparer cette soirée match sur RTL. Bonne soirée, le temps maintenant Peggy, ce sera encore orageux malheureusement demain.
Oui, du sud-ouest au nord-est et ce toute la journée avec des orages un peu moins marqués et des pluies moins fortes l'après-midi. Notez qu'on va retrouver une amélioration sur le Languedoc, plus d'éclaircies et moins d'averses et ce toute la journée. Et sur les régions au nord de la Loire et sur la façade atlantique, un temps sec, nuageux le matin et plus d'éclaircies l'après-midi. Tout ça sous des températures en légère baisse dans le sud, de 20 à 23 au nord, 23 à 27 au sud. Et je rappelle qu'il y a toujours 8 départements en vigilance orange aux orages et pluies inondations entre l'Hérault et les Savoies.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL vous emmène dans les coulisses d'une première, parce que la nuit prochaine, des touristes seront envoyés dans l'espace. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Alors, départ attendu dans la nuit de Cap Canaveral. C'est la société du fantasque milliardaire Elon Musk qui opère ce vol, avec donc à bord 4 touristes dont les profils d'ailleurs ne passent pas franchement inaperçus.
Non, chacun a une histoire qui se veut inspirante. Par exemple, Hayley Arsenault, à 29 ans, sera la plus jeune américaine à aller dans l'espace. Elle est assistante médicale dans l'hôpital où, adolescente, elle a été soignée pour un cancer. Shane Proctor, une professeure de sciences, elle avait failli rentrer à la NASA en 2009. Elle sera pilote de la mission, une première pour une femme noire, et elle en est très fière.
Je veux inspirer la prochaine génération de femmes de couleur et leur donner envie de viser les étoiles.
Il y aura aussi un ancien de l'armée de l'air et le seul à payer son siège, Jared Isaacman, un milliardaire de 38 ans.
Mais alors, ces 4 touristes, on est d'accord, ils seront tout seuls pendant 3 jours, ce qui paraît quand même assez dingue et assez risqué.
Oui, parce que certes, tout est automatisé, mais une mission spatiale, c'est toujours dangereux. Et là, s'il y a un problème, quand vous vous retournez, ben, il n'y a personne. C'est quand même vertigineux, ne serait-ce que de l'imaginer. Alors, contrairement aux autres missions SpaceX, où la NASA était en coproduction, l'entreprise d'Elon Musk, là, va tout gérer. Ça n'a pas été dit, mais on imagine que s'il y avait un souci au décollage ou dans l'espace, on appliquerait les protocoles et les ressources de la NASA. Personne n'intéresse que ça se passe mal. À noter tout de même que sur les 4 passagers, 3 ont tout de même de bonnes ou de très bonnes notions de pilotage. Donc, ont des réflexes et du sang-froid.
Bon, on l'espère. Quel est l'objectif du vol, Lionel ? Est-ce que c'est simplement l'objectif de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'Elon Musk ?
Alors, ça ne fera pas de mal à ses finances, c'est sûr, si tout se passe bien. Le milliardaire Jared Isaacman a versé plusieurs dizaines de millions de dollars pour cette opération. Et puis, Elon Musk marque des points face à ses concurrents fortunés, Jeff Bezos et Richard Branson. C'est vrai qu'envoyer monsieur ou madame tout le monde, c'est sans doute un message plus fort que se payer 10 minutes en orbite grâce à sa fortune, même si, vu les coûts, il va falloir attendre longtemps avant de parler de démocratisation de l'espace.
Oui, il va falloir attendre quelque peu. Merci beaucoup, Lionel, en tout cas, pour la balade dans l'espace ce soir. La fenêtre de tir, on le rappelle, c'est la nuit prochaine pour le décollage, et on suivra ça évidemment sur RTL depuis les États-Unis. Merci beaucoup, Lionel.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
RTL 18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et c'est un laissez-vous tenter dernière particulier ce soir. On en parlait dans le journal il y a quoi, 20 minutes maintenant. Marthe Mercadier nous a quittés. Bonsoir Monique Younes.
Bonsoir.
Elle est décédée ce matin à l'âge de 92 ans. On se souvient qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. On la surnommait la reine du théâtre de boulevard, même si elle avait aussi brillé au cabaret, au cinéma et à la télé.
Exactement. Marthe Mercadier était ce qu'on appelait une vedette. Elle faisait partie de ces artistes complets qui savait tout faire, chanter, danser, jouer. La télévision l'a rendue populaire grâce à la série Les Saintes Chéries à la fin des années 60, mais c'est le théâtre qui l'a sacrée reine. Entre les années 50 et 90, il lui arrivait de jouer plus de 600 fois d'affilée certaines pièces de Feydeau, de Marcel Aimé, de Barry Egrédy, de Françoise Dorin ou de Raymond Castan.
Le boucher qui nous gardait un riz de veau tous les matins vient de répondre à Gorgepot qui l'avait vendu. Voilà, plus de riz de veau. Plus de priorité police, plus de villa Zermatt, plus rien. Nous n'avons plus droit à rien.
Alors, sur scène, Marthe Mercadier, c'était une sacrée force comique. Hein.
Mais oui, parce que son abattage, sa gouaille, sa verve unique démultipliaient la drôlerie des situations. Elle savait par instinct trouver le ton juste, m'a dit Alain Saxe, qui l'a dirigé dans Folle de son corps de Gérard Molévrier. C'était en 2004.
Elle était quand même déjà un tout petit peu fatiguée au niveau de la mémoire. Mais ce qui était amusant, c'était de voir comment elle se sortait de toutes les situations par des improvisations, elle rebondissait, c'était extraordinaire.
Et en bonne artiste populaire, elle savait qu'elle devait tout à son public.
Mais oui, et elle le lui rendait très bien. Jamais avare d'autographes, Marthe Mercadier aimait boire des coups avec ses admirateurs à la sortie d'un spectacle. Et femme de gauche, elle a soutenu activement François Mitterrand en 1981 et s'est beaucoup impliquée dans des actions humanitaires. « Je jubilerai jusqu'à 100 ans », écrivait Marthe Mercadier dans ses mémoires publiées en 2015. Après sa ruine, le temps lui a manqué.
Effectivement, merci pour cet hommage, Monique Younes, ce soir dans Laissez-vous tenter. Dernière. On va vous retrouver demain, 9h, 9h30, avec toute la bande de Laissez-vous tenter pour la quotidienne, comme chaque matin. C'est Daniel Auteuil qui sera votre invité c'est demain, ça. Parce qu'il devient chanteur, Daniel
Mais
Auteuil.
Oui. Derrière la porte, j'entends la vie qui bouge.
Je connais par cœur son tempo, ses lumières. Quand elle fait fort et que les billes bloquent dans le rouge.
Allez, 18h36, vous écoutez RTL Soir. Et pour le moment, oui, la suite, là, dans l'immédiat, c'est On défait le monde. Vos 20 oui, minutes curieuses, instructives, jusqu'à 19h avec le Quator qui est arrivé en studio. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Et alors, on souhaite à Daniel Auteuil une meilleure carrière de chanteur que Gad Elmaleh.
Alors ça, c'est pas sympa.
Mais je sais que ça n'avait pas très bien marché, c'est pour ça que je dis ça.
C'est bien. Le petit tac, comme ça
m'a fait penser à ça tout de suite.
Cyprien est en forme. Sachez que dans un instant, avec cette bande, on va emprunter nos autoroutes parce qu'elles sont en train de devenir un sujet de campagne. Et les propositions des candidats à l'Elysée ne sont pas toujours très réalistes. Vous allez l'entendre tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.